Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Tous les regards seront tournés vers le Vatican ce dimanche. Le pape François sera l'hôte d'une rencontre de prière inédite pour la paix en Terre Sainte, alors que le processus de paix est en panne et que le climat de défiance s'est accentué entre Israël et les Palestiniens. C'est bien sûr la une de ce magazine. Nous évoquerons également la déception des évêques du Québec après l'adoption d'une loi sur l'aide médicale à mourir. La vie humaine, rappelle-t-il, doit être protégée et respectée jusqu'à sa fin naturelle. En fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. La prière peut tout, utilisons-la pour porter la paix au Moyen-Orient et au monde entier. C'est le tweet publié par le pape François ce samedi, à la veille de la rencontre de prière pour la paix en Terre Sainte, à laquelle il a convié les présidents israéliens et palestiniens Shimon Peres et Mahmoud Abbas, ainsi que le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. Cette initiative qui suscite beaucoup d'espérance parmi les Palestiniens, un certain scepticisme et quelques soupçons côté israélien, aura lieu ce dimanche en fin d'après-midi dans les jardins du Vatican, près des musées. La date, acceptée par toutes les parties, coïncide de manière providentielle avec la solennité de la Pentecôte, fête de l'Esprit-Saint. Par ailleurs, la présence du patriarche Bartholomée est lourde de signification après la prière commune du 25 mai au Saint-Sépulcre. À Jérusalem, le patriarche avait dit l'urgence de la paix face au fanatisme religieux qui menace désormais la paix dans tant de régions du globe. De retour à Rome, le Saint-Père avait pour sa part demandé aux catholiques du monde entier d'accompagner cette rencontre de leurs prières. Je vous demande de ne pas nous laisser seuls, avait-il lancé. La demande officielle a été envoyée aux conférences épiscopales à travers le monde par le service diplomatique du Vatican. En plein immobilisme diplomatique international, cet appel a recueilli des adhésions dans plusieurs pays. Évêques, consacrés, fidèles ont accepté de se joindre à la prière. Par ailleurs, l'Assemblée des évêques catholiques de Terre Sainte a adressé une lettre à tous les fidèles pour les inviter à prier dimanche soir au moment de la rencontre au Vatican. 2 minutes de silence seront respectées et à 19h, les cloches de toutes les églises sonneront à toute volée. Raviver la flamme de l'unité entre chrétiens, c'était le but premier du voyage du pape François en Terre Sainte. Il y a 2 semaines. On se souvient au Saint-Sépulcre, de la main du Saint-Père, serrant celle du patriarche Bartholomée pour descendre de l'estrade où ils se sont donné l'accolade. Geste fraternel aussi devant le mur des Lamentations avec ses amis juifs et musulmans d'Argentine. Il y eut aussi ce moment de prière devant les eaux du Jourdain, à Yad Vashem, mémorial de l'Holocauste, ou devant le mur de séparation à Bethléem. C'est là, dans la ville de naissance du Christ, prince de la paix, que le pape François a invité les présidents palestiniens et israéliens à venir dans sa maison. Nous avons demandé aux chrétiens de Terre Sainte, palestiniens ou israéliens, ce qu'ils avaient retenu de ce voyage du pape François, Marie Duhamel.
Ils n'avaient du pape François que des images, des mots que leur apportaient leur télévision et leurs journaux. Tous n'avaient qu'une envie, l'accueillir avec chaleur, le voir, l'entendre sans intermédiaire. Aussi, de nombreux chrétiens se disent un peu déçus. Ceux de Galilée, le pape les a entendus, leur promettant de venir une prochaine fois. Et ceux de Jérusalem, dans la vieille ville, Johnny Orfani a été contraint de s'enfermer chez lui.
À la porte principale de la maison avec les voisins et les soldats étaient dehors et on m'a dit on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut pas regarder. Il y avait un voisin qui avait une fenêtre en haut de là-bas, on voyait dehors, on lui a demandé de fermer les fenêtres et pas sortir la tête dehors. Voilà ce qu'on a vu.
Une douleur dans le cœur pour cet homme âgé, une douleur physique pour ceux qui ont bravé l'interdiction et que la police a brimé de manière musclée à la porte de Jaffa. Mais bien sûr, même à Jérusalem, on n'en est pas resté là. Emmanuel Elou fut heureux de voir le pape aborder tous les sujets avec les autorités israéliennes et palestiniennes, un en particulier.
Surtout la liberté d'accès aux lieux saints pour les fidèles de toutes les religions. Quelqu'un de Bethléem qui veut venir à Jérusalem doit avoir un permis. Et en général, les autorités civiles israéliennes donnent des permis, surtout à l'occasion de certaines fêtes pendant l'année. Mais il n'y a aucune garantie, n'est-ce pas? Ils sont libres de délivrer le permis ou de ne pas le délivrer.
Malgré un certain nombre d'obstacles matériels, 10 000 chrétiens sont parvenus à se rendre à Bethléem pour la messe. Place de la Mangeoire, ils venaient de Gaza, Crémisan, Nazareth et d'ailleurs. Pour le curé de Beit Jala qui dirigeait la chorale, c'était une grande émotion.
La visite à Bethléem nous a donné un encouragement inexprimable et inexplicable. Nous sommes sentis très forts par notre union et très forts par la présence du Christ parmi nous dans la personnalité du Saint-Père. Ça, vraiment, je n'arrive pas à exprimer la joie que nous avons vécue en ce jour-là, à crier tous ensemble, nous sommes un, vive le pape qui nous a unis.
Et c'est pour raviver la flamme de l'unité entre chrétiens que le pape était justement venu, 50 ans après la rencontre entre Paul VI et Athénagoras. L'accolade de François et Bartholomée, l'actuel patriarche de Constantinople, est allée droit au cœur de sœur Françoise de la Vierge, mère abbesse des Clarisses de Nazareth.
On a été très émus de voir Bartholomée s'occuper, parce que le Saint-Père est quand même un peu handicapé, on s'en rend compte, hein, il ne peut pas descendre les marches facilement. Et c'est l'autre qui l'aidait, et c'était vraiment... On aurait dit deux frères en souci l'un de l'autre et vraiment en communion. Moi, ça m'a été droit au cœur, hein. Ça m'a vraiment impressionnée.
Promouvoir l'unité, créer un espoir de paix sur place à Bethléem sous les applaudissements. Le pape a invité les présidents palestiniens et israéliens à venir au Vatican. La simplicité du courage pour Chaki Bandari de Nazareth.
J'ai été pleinement touché par son appel simple lorsqu'il demande au président de se joindre à lui pour prier pour la paix. Vous savez, il faut avoir du courage pour faire une telle demande à de l'ennemi, disons, de longue date. C'est qu'il est convaincu que seule la prière peut donner la paix.
Directeur d'un institut pour enfants autistes à Nazareth, Chaki Bandari a été ému par la prière du pape au mur de séparation, par son geste si humble quand il embrassa la main des survivants de l'Holocauste. Et cette prière, « Adam, où es-tu ?», prière qui a fait pleurer les sœurs de la mère abbesse des Clarisses de Nazareth.
Il a pris parti, sans prendre parti si j'ose dire, prêchant surtout la paix, prêchant l'entente entre les uns et les autres, avec beaucoup de sérénité, de fermeté aussi, mais tout le monde a vibré quoi, ce qu'il disait, parce que c'est dit d'une façon simple, mesurée. Je crois qu'il est très pacifiant et il a pacifié tout le monde à mon avis.
Tous n'ont maintenant qu'un double espoir, que la rencontre de prière de dimanche ait des répercussions concrètes sur le terrain et que le pape François revienne en Terre Sainte, pourquoi pas à Nazareth, afin de remettre l'exhortation post-synodale sur la famille.
Un sujet réalisé par Marie Duhamel. Sachez que Radio Vatican assurera la retransmission en direct de la rencontre de prière dimanche soir avec commentaires en plusieurs langues, dont le français, à partir de 18h05. Vous pourrez la suivre en images et en audio sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Dans la matinée de dimanche, Radio Vatican assurera également la retransmission en direct de la messe de la Pentecôte présidée par le souverain pontife dans la basilique Saint-Pierre à partir de 9h55. Vous pourrez la suivre avec commentaires en français sur notre site internet et si vous vivez à Rome, en modulation de fréquence sur 103,8 MHz. Si vous êtes en Afrique, sur l'onde courte, 21 570 kHz. Messe de Pentecôte à partir de 9h55. Rencontre de prière pour la paix à partir de 18h05 avec commentaires en français sur www.radiovaticana.va. Et à la veille de ces événements importants, le pape François n'a pas épargné ses forces ce samedi. En fin de matinée, il a reçu la présidente et fondatrice de l'organisation argentine Barrial Tupac Amaru. Madame Milagros Sala était accompagnée d'une vingtaine de personnes. Tupac Amaru est une association de quartier fondée en 2001 en Argentine pour faire face à la misère, au chômage, aux problèmes de logement, d'éducation et de santé. Les gens se sont organisés pour construire leur propre maison, école ou complexe multisport. C'est l'un des plus grands mouvements sociaux d'Argentine et d'Amérique latine. Dans la matinée de samedi, le Saint-Père a également reçu le président mexicain Enrique Peña Nieto. Ce dernier s'est également entretenu avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, accompagné du secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Les discussions ont porté entre autres sur une récente réforme constitutionnelle sur la liberté religieuse. Plusieurs autres thèmes sensibles ont été abordés. L'immigration, la lutte contre la pauvreté et le chômage, la stratégie de lutte contre la violence et le narcotrafic. En début de soirée, le pape François s'est adressé à des dizaines de milliers de jeunes Italiens, entraîneurs et dirigeants sportifs venus participer sur la place Saint-Pierre à une rencontre organisée par le Centre sportif italien à l'occasion de son 70e anniversaire. Ce centre a en effet été fondé en 1944 à l'initiative de la section jeune de l'Action catholique italienne. Un grand village sportif avait été aménagé le long de l'avenue de la Conciliazione pour une grande fête du sport que les organisateurs ont voulu placer sous la devise « Notre catholique ». capitaine, c'est le pape François. L'autorité d'information financière du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican renforce sa collaboration internationale. L'AIF a signé des protocoles d'entente avec le Royaume-Uni, la France, Malte, la Roumanie, la Pologne et le Pérou. Il s'agit de protocoles standards qui formalisent la coopération et l'échange d'informations financières entre les autorités compétentes des pays concernés dans le but de combattre au niveau international le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les évêques du Québec ont exprimé leur profonde déception et leur vive inquiétude à la suite de l'adoption de la loi autorisant l'euthanasie en fin de vie sous le nom d'aide médicale à mourir. Dans un communiqué, le président de l'Assemblée, Mgr Pierre-André Fournier, souligne que la société est divisée à ce sujet. Jean-Baptiste Cocagne.
Le Québec est la première province canadienne à approuver une loi sur l'aide médicale à mourir, une décision désapprouvée par le gouvernement canadien. Le code pénal du pays interdit le suicide assisté et l'euthanasie. L'aide médicale à mourir sera donc strictement balisée. Elle restera réservée à des cas de souffrances exceptionnelles de patients atteints de maladies incurables. Les évêques comprennent l'angoisse de tous ceux qui ont entendu un proche réclamer la mort pendant une difficile agonie. Mais selon eux, la véritable réponse de la société et de la médecine à cette situation, ce sont les soins palliatifs. Les évêques espèrent donc que ces soins seront offerts le plus tôt possible dans toutes les régions du Québec. Ils invitent le personnel médical à avoir le courage de l'objection de conscience. La ministre québécoise des Relations internationales a affirmé ne pas vouloir donner aux médecins le pouvoir de tuer des malades. Jusqu'ici, 4 pays européens, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Suisse, ont légalisé l'euthanasie. 4 États américains ont légalisé le suicide assisté.
Le prix pour la paix décerné par le mouvement Pax Christi International a été attribué cette année à la section syrienne du service jésuite aux réfugiés pour son engagement humanitaire auprès de la population. La cérémonie de remise du prix aura lieu ce dimanche à Sarajevo. Cette organisation jésuite a commencé en 2008 à travailler en Syrie pour venir en aide aux nombreux réfugiés irakiens qui avaient fui leur pays en guerre. Depuis, la Syrie a elle-même sombré dans une guerre civile particulièrement meurtrière. Avant-dernier volet de ce magazine, exercice pratique d'auto-louange de Marie Millis. C'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. Je vous laisse en compagnie de Sœur Catherine Aubin.
Le livre pour Dieu cette semaine est un livre sur l'auto-louange, une pratique millénaire qui permet de donner une voix au bouillonnement des talents qui se trouvent en chacun de nous. Nous avons interrogé Marie Millis, son auteur, et nous lui avons demandé si l'auto-louange était finalement une forme de bénédiction, telle qu'on la trouve dans le psaume 138, quand il est dit « Merveille que je suis, Seigneur ».
Oui, si je ne me trompe pas, le psaume 138, c'est même « Je te loue, Seigneur ». Pour cette merveille que je suis. Et donc, être à la fois le récipiendaire de la louange et celui qui la donne. Pour moi, la bénédiction doit aller dans ces deux sens, c'est-à-dire être capable de la recevoir en toute humilité et en même temps reconnaître qu'il m'appartient de la briller, qu'il m'appartient de la manifester pour d'autres. Il ne s'agit absolument pas, entendons-nous bien, il ne s'agit absolument pas de la posture narcissique de quelqu'un qui se prendrait au sérieux et qui irait proclamer « je suis une merveille, regardez-moi », etc. C'est pas ça du tout l'auto-louange. L'auto-louange, c'est une posture en creux. C'est une posture dans laquelle on rencontre le plus grand que soit en soi et à partir de là, on lâche tout. On laisse la main écrire ce qui monte au cœur. Et puis ce qui a été écrit, on le proclame et on reconnaît qu'il y a une connexion directe à l'intérieur du « je » entre ce qui le fonde et la personne qui le vibre. Et donc, dans cette connexion, je découvre à l'intérieur de moi, et là je vais reprendre le psaume 138, la merveille que je suis.
Alors, comment vous avez rencontré cette pratique, Marie Millis ?
Je suis professeure de mathématiques et j'ai la chance d'enseigner dans une école que notre ministre appelle une école de discrimination positive, c'est-à-dire une école qui rassemble des élèves en grande difficulté, sociale, économique, familiale, et qui sont au bord de la violence, voire qui y sont passés. Et donc, quand je me présente, pour eux, mon cas est déjà réglé. Je suis le professeur à Onir, et ma matière est la matière qui les met en échec. Je crois que tout le monde est capable de faire des mathématiques, et à ce jour, je n'ai pas encore été mise en échec sur cette croyance. Et donc, au début, les élèves s'acharnent à vouloir rester en échec. Et moi, j'essaie de pétrir la pâte pour arriver à un climat de classe qui fait que nous devenons capables, tous ensemble, précisément parce que nous sommes ensemble. Et donc, au début, j'ai eu de très mauvais textes, plus de l'autopromotion, plus du moi-je, mais qui, en même temps, révélaient chacun une forme de pépite.
Pouvez-vous nous dire les bienfaits, justement, de l'auto-louange ?
J'ai commencé par en parler de ce que j'ai vu chez mes élèves, ce qui m'a ancrée dans le processus et m'a fait devenir ce que je suis devenue. Je les ai vus sentir qu'il y avait quelque chose d'indemne, de valorisant et de beau à l'intérieur d'eux. Et donc, je les voyais se remettre dans leur axe sacré, se remettre debout. Par l'auto-louange et l'amplification, c'est comme si j'ai permission de dire mon âme. Et ça fait un grand bouquet. Je prends le tout de la vie. Et c'est ce tout de la vie qui me monte au niveau de quelle beauté.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire, signée Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavy pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, fête de la Pentecôte. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. De même que le père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
L'évangile de ce jour nous montre Jésus donnant le Saint-Esprit aux disciples. Ce récit nous révèle l'œuvre et les fruits de l'Esprit-Saint dans notre vie. Voyons cela plus précisément. Tout d'abord, il est dit que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Mais cela n'arrête pas Jésus qui apparaît au milieu d'eux comme s'il n'y avait pas de porte. C'est bien là l'œuvre de l'Esprit-Saint. Nos cœurs peuvent être verrouillés et nous pouvons nous enfermer dans la peur. Mais l'Esprit-Saint vient nous rejoindre là où nous sommes. Il ne se laisse pas arrêter par nos fermetures intérieures, nos craintes. Ne nous désolons donc pas si nous nous sentons craintifs devant les dons du Saint-Esprit, si nous nous sentons enfermés dans les prisons de la rancœur, de la tristesse ou de la vengeance. En un sens, il est bien normal que cela nous trouble un peu. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint pourrait bien chambouler dans notre vie ? Oui, l'Esprit-Saint est capable de tout faire pour nous. Et le premier signe de sa présence nous est signifié par la double salutation de Jésus. « La paix soit avec vous ». L'Esprit-Saint établit nos cœurs dans la paix. Cette paix, c'est la plénitude de Dieu dans notre vie. Le monde peut nous offrir beaucoup de choses, toutes aussi séduisantes les unes que les autres. Mais la paix que l'Esprit-Saint nous donne est d'un autre ordre. Elle nous remplit totalement, nous libère de la crainte et du jugement. Elle nous donne de pouvoir aimer ceux qui sont autour de nous, au-delà même de nos propres limites. Le deuxième fruit de l'Esprit-Saint est la joie. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Cette joie, tout comme la paix, n'est pas du même ordre que celle que le monde donne. Il est vrai que le monde peut offrir beaucoup de réjouissances, mais tout cela reste vide sans la présence de Dieu. La joie du monde se fane et disparaît. Seule la joie que le Seigneur donne demeure. Ensuite, il est dit, ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». L'Esprit-Saint est donc symbolisé par un souffle. Non pas que l'Esprit-Saint soit un gaz, il est une personne de la Trinité, égale au Père et au Fils. Mais tout comme le vent, le souffle de l'Esprit-Saint est puissant. Il s'engouffre partout et donne la vie. Il nous recrée. Dieu avait insufflé dans les narines d'Adam une haleine de vie pour qu'il vive. Avec Jésus qui souffle l'Esprit-Saint, c'est une création nouvelle que Dieu opère. Par l'Esprit-Saint, nous sommes recréés, nous devenons un être nouveau. C'est pourquoi Jésus dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ce souffle qui donne une vie nouvelle nous envoie porter la bonne nouvelle. Dans le même sens, Jésus avait dit à Nicodème « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit ». En ce jour, laissons-nous remplir par l'Esprit-Saint afin de recevoir la paix et la joie qu'il désire nous donner. Nous pourrons alors, tout comme les apôtres, être envoyés et annoncer la miséricorde de Dieu à temps et à contre-temps.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi et bon dimanche à tous.